Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, pour ce nouveau regard croisé devant les micros de Canal Académie, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Schmitt. Vincent Schmitt est pasteur à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Vincent Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes très actif dans le domaine interreligieux. Vous avez publié de nombreux articles sur Pierre Jurieux, Sébastien Castelion, Jean Calvin, Eugène Drewermann. Vous venez de faire paraître aux éditions de Paris Max Chaleil, Michel Servet, du bûcher à la liberté de conscience. Et ce, en 2009, en plein jubilé consacré au grand réformateur Jean Calvin. Également devant les micros de Canal Académie, Olivier Abel. Olivier Abel, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous enseignez la philosophie à la faculté protestante de Paris. Votre prochain ouvrage sur Calvin, qui s'intitule tout simplement Calvin, va être édité, je crois, fin avril. Alors, vous êtes réunis tous les deux devant les micros de Canal Académie pour parler de l'un des amis de Jean Calvin, un certain Sébastien Castelion. Sébastien Castelion, tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Quand les Genevois tuèrent Servet, ils ne défendirent pas une doctrine, ils tuèrent un homme. Ces paroles restent lourdes de sens par rapport à la situation dramatique connue, ce pauvre médecin Servet. Sébastien Castelion, lui, a pris la plume pour défendre Michel Servet, condamné, exécuté sur recommandation de Calvin en 1553. Prudent, il publia sous pseudonyme le traité des hérétiques. Stéphane Zweig, dans « Conscience contre violence », prendra clairement le parti des humanistes contre Calvin. Où est la liberté de penser si le bûcher sanctionne l'expression d'une idée différente? La liberté du chrétien n'est-elle pas un fondement de la réforme? Alors, évidemment, les paroles de Stéphane Zweig résonnent profondément en nous, dans nos consciences. Comment vous situez-vous par rapport à ce cas de conscience qu'a connu le grand réformateur Calvin et la position qu'il a dû prendre dans la situation qu'il exerçait à cette époque-là à Genève? Vincent Schmitt?
Oui, je reviendrai peut-être sur ce que vous avez dit au début quand même. Vous dites un ami de Calvin. Oui, enfin, un certain temps et pas très longtemps. Il faut rappeler que Castelion, c'est une génération après Calvin. Calvin est l'aîné. C'est vrai que jeune étudiant à Lyon, il lit l'Institution chrétienne, première édition. Il est ébloui, qui ne pourrait l'être d'ailleurs à l'époque. Et il va voir Calvin à Strasbourg parce qu'il veut absolument rencontrer cet homme. Et il appartient au cercle pendant un certain temps, ce séminaire, n'est-ce pas, que Calvin dirige à Strasbourg pour la formation des futurs pasteurs pendant la période où il est banni de Genève. Puis ensuite, lorsque Calvin revient à Genève, il crée le collège. Le collège donc, qui est une école préparatoire, en fait, à la théologie. Et pour diriger le collège, il pensait à Mathurin Cordier, qui n'était pas disponible, et finalement, il fait venir Castelion. Et puis, très rapidement, les choses vont se gâter, parce que Castelion veut avoir sa propre édition de la Bible, il veut devenir pasteur, mais il n'a pas les mêmes idées de Calvin sur tout un tas de points. Et donc, finalement, il est obligé de quitter Genève, il s'exile. Et à partir de là, il y a une rupture qui va dégénérer et s'envenimer beaucoup plus gravement à partir de l'affaire Servet. Donc c'est une amitié qui ne dure pas très longtemps. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième remarque à propos de la citation de Zweig. Lorsque Zweig, qui écrit en 1936 au moment de la montée du nazisme, et qui donc se sert de cette histoire comme d'une parabole pour parler d'un vécu qui, pour lui, est contemporain, mais peut-être avec un risque d'anachronisme quand même, il faut le souligner, même si Zweig est un grand écrivain, ce n'est pas la question. Donc, lorsque Zweig dit que la liberté de penser appartient à la réforme, elle appartient à la réforme aujourd'hui, au XXe siècle. C'était absolument pas le cas au XVIe siècle. Ni Calvin, ni les autres grands réformateurs n'ont voulu d'aucune façon introduire la liberté de penser ou de croire dans leurs églises. Absolument pas. C'est quelque chose qui est venu par la bande et au fond, je dirais, par le retour du refoulé de cette source humaniste à laquelle la réforme s'était nourrie et qu'elle avait ensuite, avec une certaine ingratitude, rejetée. Et c'est ça la problématique Castelion.
Le philosophe que vous êtes, Olivier Abel, est d'accord avec les propos de Vincent Schmitt?
Oui, surtout tout ce qu'il a, la manière dont il le raconte, sauf peut-être sur la fin, quand il parle d'une ingratitude envers l'humanisme. Il y a dans la réforme une renaissance évangélique qui va rester
qui va rester un fil très important. Et le côté, je dirais, contre-renaissance de la réforme, ce qui est certain, qui me semble important, et là je pense que Vincent Schmitt met le doigt sur quelque chose de très important, c'est que finalement, l'homme tel qu'il est aimé par Dieu, l'homme tout entier, c'est pas l'homme stoïcien, c'est pas une partie de l'homme, c'est l'homme tout entier, je dirais, y compris dans ses misères, dans ses faiblesses, dans ses, etc. Donc c'est un autre humanisme qui apparaît. C'est un autre débat qu'on pourrait avoir, c'est pas l'objet ici, mais je pense qu'il faudrait mesurer tous les débats autour de l'humanisme, qui sont des débats intéressants. C'est l'idée que l'homme n'est pas Dieu. Et donc on peut découvrir l'humanisme qui se développe, qui va se développer, c'est un humanisme dans lequel l'homme est mis à sa place dans une finitude, un sens aigu de la limite, des limites, des finitudes. Et c'est en ce sens-là que c'est quelque chose de très important pour les modernités. C'est pas juste, on peut dire, une sorte de retour de Moyen-Âge après une petite parenthèse humaniste, éclairée, etc. Non, je crois pas. Je pense que c'est très important pour comprendre Descartes, pour comprendre Kant, pour comprendre une lignée très importante de cette modernité, y compris jusque dans les Lumières. Vous voyez, bon, ça c'est un autre débat.
Ça c'est une impulsion donnée par Calvin.
Ben, disons que Calvin est un sens très très aigu. Oui, Calvin est certainement un des auteurs les plus importants pour la mise en place des thèmes principaux de cette philosophie de la finitude. Et en même temps, du caractère adulte. On est adulte quand on a compris ses limites, en gros. C'est ça, un thème central chez Calvin.
Mais cette liberté de conscience...
Je pense que ce par quoi vous commenciez, il me semble que le drame, c'est que justement ce que Castellion reproche à Calvin après l'exécution de Servet, c'est justement que Calvin n'a pas été cohérent. C'est que Calvin n'a pas pratiqué ce qu'il avait dit, ce qu'il avait demandé, ce à quoi il avait appelé les chrétiens de son temps. Et c'est cette incohérence, il me semble que c'est ça qui est très fort dans le discours de Castellion, c'est de pointer les incohérences de Calvin. C'est-à-dire, tous les arguments de Castellion sont des arguments que Castellion lui-même et croit emprunter à Calvin. Peut-être qu'il
va aller chercher chez Calvin.
Il va aller chercher chez Calvin.
Le contrat libellum, c'est vraiment du mot à mot. Hein.
Du mot à mot. Et alors ça, je trouve ça très intéressant comme débat, parce que je pense qu'il n'y a pas une telle différence sur le fond philosophique, justement. Si on prend au niveau philosophique, c'est beaucoup plus entre Castellion et Calvin. En revanche, Calvin, homme de pouvoir, on va dire, homme d'église, et homme politique, ne va pas pratiquer là où on attendait qu'il pratique quelque chose. Et ça, c'est ça, qui a été le choc pour les contemporains, et même pour tous les amis de Calvin. Ils ont été attristés. On voit des correspondants, des gens de Berne, des Mélenchon lui-même, qui lui écrit « Ah, c'est quand même une sale affaire, que tu nous mets sur les bras, là, comment est-ce qu'on va s'en tirer ?» Bon, en gros, il y a une sorte de...
Oui et non, quand même. Hein. Les églises suisses sont quand même assez contentes, et Calvin, et même se déclare agréablement surpris après avoir fait demander les avis des églises de la Suisse, dont Genève ne fait pas partie, Genève n'est pas suisse à l'époque. Donc, c'est nuancé. Mais... ce qui est vrai, c'est que la mort de Servet, au fond, fait exploser le débat à l'intérieur du monde protestant. Ça, c'est certain. Et qu'à partir de là, les choses vont évoluer. Et là où je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier Abel, c'est qu'effectivement, la critique de Castellion ne porte pas sur des questions philosophiques ou même théologiques fondamentales. Quelque part, ils sont assez proches. Castellion est quand même clairement du côté réformé. Il ne revient pas en arrière. Mais Castellion, c'est l'homme qui pose des questions éthiques. Justement, par rapport au pouvoir, par rapport à la séparation de l'Église et de l'État, et par rapport à cette chose qui est encore très moderne pour l'époque, enfin elle est d'avant-garde, parce qu'elle est assez peu représentée, qui est la liberté de penser. Je crois qu'il ne faut pas voir cette histoire en faisant l'économie quand même de l'histoire des mentalités. On sort du Moyen-Âge, on est encore dans une mentalité qui cultive ce que j'appellerais l'idéologie de la chrétienté unie. Quand Théodore de Bèze répond à Castellion, au fond, il aligne des arguments qui auraient pu être repris par l'Inquisition ou par les papes, sans aucun problème. D'ailleurs, moi, je pense que Calvin n'avait certainement rien contre l'Inquisition, sinon le fait qu'elle était catholique et dirigée contre les réformés. Mais sur le principe, il est d'accord, parce que ce sont des gens qui ont encore un pied dans cette idée que la société doit être complètement homogène, ou bien, comme le dit Théodore de Bèze, que une société, le but de la société, c'est l'adoration du vrai Dieu, c'est-à-dire et que le magistrat doit
conscience,
aider.
La conscience appartient à Dieu. C'est pas la conscience de l'individu libre de... La conscience, c'est quelque chose dans quoi je ne suis pas du tout libre. Et on trouvera ça jusque chez Bayle. Hein.
Bayle, un peu moins quand même. Il y a conscience errante.
Justement.
C'est là que ça bascule.
Elle a le droit d'être errante parce qu'elle appartient à Dieu. C'est ça, c'est l'argument central de Bayle. C'est, de toute façon, les droits de la conscience sont les droits même de Dieu. Il le dit comme ça, tel quel.
Est-ce qu'il est sincère quand il dit ça,
Bayle ? Ah oui, je pense absolument qu'il est est absolument sincère, c'est très important pour lui. C'est très important de remettre à Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas... D'ailleurs, quand on lit l'article Calvin chez Bayle, l'article, on peut lire des articles Castellion, Calvin, il est très, 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 très favorable à Calvin dans ces affaires-là, beaucoup plus que... C'est ça qui est curieux, il y a toute une tradition, on va dire, libérale, anachronique, alors que moi, je suis très proche des idées libérales. Mais là, il y a un anachronisme, et Bayle n'est pas un libéral dans le sens... Et quand son article Calvin, c'est magnifique, il dit, de toute façon, les erreurs, la calomnie va l'emporter, c'est l'erreur qui l'emporte sur la vérité de toute façon. Et là, sur Calvin, on a cessé de raconter des erreurs. Il montre, Bayle, que pendant 80 ans, toutes les vies de Calvin sont des vies de Calvin comme un noceur, un buveur, un coureur de jupons, etc. Et que, justement... Ça qui est magnifique dans la lecture qu'en propose Bayle, c'est que finalement, à force de défendre, de prendre le contre-pied de cette accusation perpétuelle de Genève, ville de débauche, Genève, ville de libertins, etc., etc., que finalement, il y a la nouvelle critique qui va l'emporter, et qui va l'emporter jusque dans le monde protestant, puisque dans le monde protestant, l'image qu'on a de Calvin aussi, c'est l'image finalement presque anorexique, une espèce de l'homme en noir, glacial, austère. Sans cœur, austère, etc.
Ah, il me semble quand même.
Et qu'on a encore chez Stefan Zweig. Oui. Stefan Zweig, c'est une caricature. Et la préface par Le Tellier de Stefan Zweig, dans laquelle carrément c'est l'hitlérisme et Calvin c'est Hitler, là, c'est, à mon avis, c'est carrément.
De la caricature, de la.
C'est vraiment grave. Moi, je trouve ça grave parce que ça disqualifie l'histoire complète, quoi, complètement. Quoi. Ça, il y a une manière de faire des raccourcis de l'amalgame, je dirais, qui est elle-même totalitaire.
Elle est elle-même, dangereuse.
Je la trouve complètement inquiétante. Elle m'inquiète, ça m'inquiète qu'aujourd'hui, on puisse. Donner lieu, et j'ai appris, comme dit Bayle, les erreurs se recopient les unes des autres. On voit ça partout. De toute façon, l'image de Calvin, elle est comme ça, et on n'y pourra plus rien. On n'y pourra plus rien, alors que c'est certain qu'en 1600, l'image de Calvin, dans les vies de l'époque et dans les débats de l'époque, est encore plus variée même. C'est ça qui est drôle.
Qui appelait-on les libertins du temps de Calvin ?
Alors, les libertins à Genève, ce sont les Genevois, au fond. C'est les Genevois de souche. Qui vivent assez mal, en fait.
L'invasion par tous ces exilés.
L'invasion par Calvin, par les réfugiés français. Il y a une xénophobie qui est très forte à ce moment-là, anti-française. Les libertins sont les partisans des libertés. Ils sont groupés autour d'un certain nombre de syndics, dont notamment Ami Perrin, qui sera un adversaire de Calvin. Et ils forment, à l'intérieur de cette toute petite ville, qui fait quoi, 20 000 habitants à tout casser, ils forment le parti des gens qui sont opposés à Calvin. Et comme malgré tout, contrairement à tout ce qu'on a dit, effectivement, Calvin n'a jamais été un chef d'État, il n'a jamais été un magistrat. Il ne deviendra bourgeois de Genève, je crois, 3 ans avant sa mort ou 4 ans avant sa mort. Il n'a donc pas du tout en main les rênes politiques, même s'il a des réseaux et des relais, mais enfin, il n'a pas les rênes. Et le fonctionnement démocratique de la cité continue, parce que ce n'est pas la réforme qui amène la démocratie à Genève. Elle existe déjà depuis longtemps. C'est parce que Genève est démocratique qu'elle passe à la réforme. Les institutions continuent, grosso modo, et Calvin est à la merci d'une élection perdue.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, en 1553, c'est un moment de très grande fragilité de Calvin. Et moi, je pense que l'affaire Servet, j'allais dire, se durcit beaucoup, prend ce tournant terrible, peut-être parce que Calvin n'a plus que sa parole. Et c'est un moment où il est tendu sur sa parole et on lui dit, en gros, c'est ta parole contre celle de Servet et finalement, c'est kiff-kiff, quoi. C'est pareil, elles sont de même. Et alors là, ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte absolument pas. Il faut absolument que sa parole l'emporte parce que sinon, il est entièrement décrédibilisé. Et je pense qu'il y a une surenchère chez lui de tension sur sa parole au moment de l'affaire Servet, dû à ce moment de très grande fragilité politique où il n'est pas du tout sûr de, justement, en effet, de son. Il n'est pas sûr de son autorité. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'éprouve. Et je pense
ceci dit, d'abord, ce n'est pas le seul bûcher. Il y en a quand même un certain nombre d'autres. Quand on fait un peu les annales judiciaires de la ville de Genève à cette époque, c'est intéressant voir que finalement, on n'a ni plus ni moins de bûchers qu'ailleurs. Hein. On fonctionne à peu près de la même façon.
Oui,
la justice genevoise n'est plus ni moins sévère.
Oui, mais pas sur des... Pas
ah
sur
si, des... Ah bah si. Il y a le problème de Gruet, par exemple. Il y a Gentilis, Bolsec, échappe de justesse. Bon, vous me direz que Gentilis va se faire couper la tête à Berne, pour les mêmes raisons que Servet, d'ailleurs.
Oui, mais je veux dire...
Tard. Oui. Donc voilà. Non, dans les ordonnances ecclésiastiques, il est clairement dit que l'hérésie est un crime de droit commun. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, l'hérétique, mais ça, c'est pas Calvin qui l'invente, c'est un lieu commun dans toute l'Europe depuis longtemps, l'hérétique est un malfaiteur social. L'hérésie est une menace pour la société. Et donc, éradiquer l'hérésie, c'est en fait garantir la stabilité du corps social. Et au fond, Calvin ne pense pas et ne dit pas autre chose. Donc finalement, pour l'époque, le bûcher de Servet, c'était un bûcher parmi d'autres. Ça n'avait rien de tellement extraordinaire. Le problème, c'est que ça apparaissait dans une nouvelle forme d'église, une nouvelle forme d'idée. Et là, ça a posé problème à ce moment-là. Ça a commencé à poser problème.
Là, les réactions entre Calvin et Castellion par rapport aux hérétiques, par rapport aux décisions prises contre les hérétiques sont différentes.
C'est-à-dire que c'est le Castellion, pratiquement. Il y a Bibliander à Bâle, mais c'est un petit peu plus tard. C'est vraiment un des premiers manifestes, le traité des hérétiques qui est publié en 1954. C'est le premier manifeste tolérantiste de l'histoire chrétienne en Europe. Oui,
je trouve que la principale et efficiente cause de la maladie, c'est-à-dire de la sédition et guerre qui te tourmente, est forcer les consciences. Et
alors ça, c'est le conseil à la France désolée. Mais ça, c'est au moment des guerres de religion, à partir des années 62-63, comme ça. Effectivement, il est le premier à avancer cette idée qui, nous, évidemment, nous parle forcément de conscience. C'est une idée très nouvelle. C'est une idée très nouvelle qui va mettre du temps à être intégrée, au fond. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous allez à Genève, au monument Servet, parce qu'il y a un monument Servet qui a été d'ailleurs installé à l'inspiration d'Émile Doumer, le grand historien de Calvin, pour le jubilé de 1903. Et alors on a cette inscription, je cite de mémoire, on reconnaît que la liberté de conscience est un principe intangible de la Réformation. Je suppose que Calvin n'aurait jamais accepter une telle formulation. C'est une formulation moderne qui vient 3-4 siècles après. Voilà. Donc c'est toujours le problème de on ne peut pas se projeter là-dedans comme si les siècles n'avaient pas existé. Et puis évidemment, d'un autre côté, alors, la polémique anticalviniste s'est précipitée là-dessus. Olivier Abel, tout à l'heure, faisait appel à ce qu'on appelle la légende noire de Calvin. C'est Bolsec qui est le principal responsable.
Non, Bolsec commence par dire qu'il est un coureur. La vie de Calvin vers Bolsec.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est ce que je dis, il est le principal responsable de la légende noire.
Ouais, c'est ça, oui. Mais noir, voilà. C'est une noire, mais ce n'est pas du tout l'image du Calvin austère, etc. C'est un buveur, c'est un noceur. Ah, si,
oui, tout à fait. Enfin, c'est aussi un musulman, enfin, c'est assez curieux le mélange. Il aurait voulu remplacer le dimanche par le vendredi.
Il fait des sacrifices d'enfants. Enfin,
le truc un peu fou. Voilà. Mais Bolsec n'est pas quelqu'un d'extraordinairement intéressant, je trouve. Castellion, c'est autre chose.
Ah non, bien sûr, il n'y a pas de comparaison. Mais je veux dire, en même temps, dans un débat. Vincent Schmitt va réagir, mais dans un débat Calvin-Castellion, quand même, c'est un débat un peu De Gaulle-Canuet. C'est quand même des figures de qui ne sont pas du tout la même stature. Là aussi, ce serait un peu anachronique. À l'époque, Calvin est énorme, il est immense. Et là aussi, il y a une sorte d'anachronisme à essayer de chercher. Alors, au niveau de l'histoire des idées, bien sûr, quelqu'un d'anonyme peut très bien écrire quelque chose de plus important que quelqu'un de très célèbre. Ce n'est pas ça que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mesurer la place mutuelle qu'ils éprouvaient, c'est-à-dire pour mesurer un petit peu les débats qu'il y a eu entre eux. Ceci dit, moi, je pense que dans ce qui s'est passé à cette époque-là aussi, là, pour le remettre dans son contexte, je ne sais pas, je ne suis pas historien, moi je ne suis qu'un philosophe. Je me demande s'il n'y a pas quand même dans l'affaire Servet un piège conduit. Alors je ne sais pas si ça a été travaillé par le légat du pape, par l'évêque de Vienne, etc.
Le complot contre Calvin.
On voit Michel Servet quand même fuir des prisons de Vienne, on ne sait pas très bien comment. Il y a des pièces apparemment du dossier qui ont disparu. Il y a toute cette correspondance. Il vient à Genève, il se précipite à Genève. C'est très curieux comme affaire. En gros, quand même. On voit très bien l'intérêt, en tout cas, de que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, des bûchers, il y en avait partout. Il y en avait à Lyon, il y en avait tout le temps. Hein, des hérétiques qui passaient sur le bûcher. Et donc, mais ce qui se passe là, c'est le piège est le suivant. Soit Genève laisse passer Michel Servet, et donc c'est la preuve qu'on cherche à démontrer que Genève est une ville de débauche, une ville où tout est libre. Il n'y a pas que les libertins, en sens. Il y a aussi les libertins spirituels, hein, c'est-à-dire les gens qui échappent complètement à tout cadre d'église parce qu'ils ont le sentiment que ça ne sert plus à rien. C'est quand même important, hein, ça a été une polémique importante aussi. Donc soit Genève est une ville de débauche, soit on sévit contre Michel Servet, et du coup Genève n'est plus la ville libre qu'elle était encore dans l'image d'éditeurs, d'imprimeurs qui venaient encore s'installer à Genève. Et donc là, c'est Genève et Calvin dans une sorte de traquenard, d'alternative. C'est soit ça. Hein, il va falloir que ça se décide.
Si on imagine qu'il y a une partie de poker menteur, alors à ce moment-là, à Genève, on a sa part de responsabilité aussi. Parce que le problème, c'est que la dénonciation de Servet, au moment où il est à Vienne, où il publie son deuxième bouquin théologique, La Restitution, il la publie d'une manière anonyme. Or, c'est de Genève que vient la dénonciation.
Mais oui, mais justement, rappelle-toi, elle a été extorquée à Calvin par Guillaume de Vry de Lyon.
Voilà, il a probablement, effectivement, Calvin a dû céder aux exigences ou enfin à l'insistance de son ami.
Mais cet ami était lui-même relancé
par son cousin.
Par son cousin catholique
qui était à Lyon.
De Lyon. Oui. Et pourquoi est-ce que. C'est ça qui m'étonne. Pourquoi cette. Voilà, je remonte là. C'est pas
oui,
tellement...
d'accord, mais on peut aussi dire qu'on peut poser la question en sens inverse. C'est à ce moment-là, pourquoi Calvin a-t-il cédé aux instances de tri ? après tout. Sinon, peut-être parce qu'il a pu se dire, après tout, si l'Inquisition s'en charge, ça fait toujours ça de moins.
C'est, ça.
C'est pour ça que je parle d'un poker menteur.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il a été...
Alors, qui veut être le plus fin dans cette histoire? Ça, effectivement, c'est une vraie question.
Bon, il me semble qu'il y a un petit roman policier qui
mais
n'est pas...
c'est très mal élucidé. C'est vrai qu'il y a des pièces qui ont disparu, notamment au moment de la Révolution française. Tout a été brûlé. On a des textes par un abbé qui avait pris des notes à ce moment-là, mais beaucoup de documents de tous les procès de Vienne, notamment, tout ça a disparu malheureusement.
De l'Inquisition à Vienne.
Et
je pense que c'est un débat intéressant parce qu'on ne mesure pas à quel point, quand même, Genève était une ville au centre de stratégie.
Bien sûr. Non, mais ça, c'est évident.
Immense, quoi. Hein, et que là, l'affaire Servet est une affaire, quand même. J'aime Vincent Schmitt dit qu'il y en a plusieurs à débûcher comme ça, mais quand même.
Celle qui est emblématique.
Elle est emblématique.
C'est celle qui est emblématique.
Même pas 40. Hein.
Voilà. Et sur laquelle toute la lumière n'a pas encore été faite, donc, à cause de Pierre.
Une immense littérature à charge et à décharge a été écrite là-dessus, il faut quand même le dire. On a refait le procès de Servet, on a fait les procès de Calvin, le procès de Castellion, tout le monde a eu son procès dans cette histoire.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc voilà. Mais il n'en reste pas moins que c'est un peu normal aussi. Enfin, on peut comprendre en tout cas que ça a eu un tel impact, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'était que Genève ? Genève était devenue, cette toute petite ville, au fond la capitale d'une chrétienté alternative, d'un modèle d'église qui était tout à fait alternatif de l'église latine, de langue française. En plus de ça, Calvin est tourné vers la France. Genève, ça ne l'intéresse pas, il ne s'y plaît pas, il n'aime pas cette ville. Il s'adresse à François Ier, c'est ça qui l'intéresse, clairement. Hein. Les Genevois l'agacent. Il le dit trois fois par sermon. Donc là-dessus, c'est clair. Mais bon, il est là en exil, ce sont des exilés. Et évidemment, il y a une attente qui est très forte. Je crois que moi, ce que je lirais, c'est cette exemplarité de ce nouveau type d'église qui se doit de ne jamais faillir parce que, évidemment, c'est observé à la loupe et le moindre faux pas est grossi. Et puis, peut-être, ce qu'Olivier Fassu appelle le stress de la sanctification qui nous fait tomber directement dans les trous. Il y a un peu de ça. Mais quand même, dans l'histoire des mentalités, malgré tout, quand on relit, je trouve que Calvin reste très médiéval, Théodore de Bèze reste très médiéval. Au fond, ils sont d'accord avec saint Thomas d'Aquin sur la question des hérétiques. C'est pas là que se trouvent les grandes différences. Et en fait, il y a quelques esprits tout à fait isolés. Alors, effectivement, la différence entre Calvin et Castellion, il n'y a pas photo.
Oui, mais quand même, en même temps, on peut dire que quand même, c'est quand même des idées de Calvin. Sur forcer les consciences, c'est bien, il prend bien des arguments aussi de Calvin, là. Quand il dit qu'il ne faut pas brûler les gens pour...
Il le dit bien, mais enfin, quand même, quand on lit la préface de l'Institution, qui est un texte quand même célèbre, il y a quand même, on voit tout à fait se dessiner le piège qui sera celui de Servet. Dans la première page, qui est magnifique, Calvin s'adresse au roi de France pour plaider la cause de ses frères en disant qu'il ne faut pas les persécuter.
Ce ne sont pas des séditieux.
Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit au paragraphe suivant ? Que si le roi était un roi vraiment chrétien, eh bien, il mettrait ses armes au service de la vérité pour remettre de l'ordre dans tout ça. Et oui, c'est exactement ça. Et ça, c'est théorisé dans des dizaines de textes de Calvin. Pour lui, ça ne pose pas problème parce que, dit-il, le Christ n'a pas exclu que les magistrats et les princes soient eux également des chrétiens.
Ah, surtout, donc, même compte là-dessus. En fait, il ne compte que là-dessus.
On est d'accord.
Il est vraiment... Non, mais c'est certain que c'est un homme de l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dont il ait plus peur. Mais il a vu les résultats de la révolte des anabaptistes en Allemagne, la révolte de Münster. Et donc,
Servet est anabaptiste. Il est anabaptiste.
L'esprit prophétique, un petit peu, qui pourrait faire que n'importe qui, avec la Bible à la main, fait sauter tout. Non, alors là, c'est certain que c'est un homme de l'ordre. Et même, lui, en fait, il veut gagner par les rois et non pas par... Et donc, il donne un exemple. Il dit, mais regardez, vos serviteurs sont plus fidèles que vous. Mais en fait, c'est quand même les rois qu'il veut gagner. Hein, c'est certain. C'est pour ça que c'est un homme... Il cherche à toucher la tête. Il écrit au roi. Hein. Il écrit d'abord au roi, il écrit au magistrat. Parce que là, sur le plan politique, hein, sur le plan... Sa prédication, elle n'est pas faite pour les rois, elle est faite pour... Là, il y a une égalité totale. Mais si on est dans l'ordre politique, c'est un ordre dans lequel il y a des magistrats, il y a de l'ordre, et il faut qu'il y ait des magistrats, il faut qu'il y ait de l'ordre, ça c'est certain.
Alors que dans la pensée de Servet, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Servet a une certaine pensée qui n'est pas tout à fait achevée, mais qui n'est pas inintéressante non plus, qui explique d'ailleurs très largement l'antagonisme absolu qu'il pouvait y avoir entre les deux, il n'y a aucun point commun. Mais il y a ce côté d'abord anabaptiste, Servet était rentré en contact plus ou moins avec des anabaptistes dans la région de Strasbourg, même s'il prend soin de dire qu'il soutient les anabaptistes pacifiques, pas les séditieux, mais enfin, à l'époque, anabaptiste égale anarchiste finalement.
C'est
enfin,
ça.
C'est ça ce
C'est anarchiste.
Et Calvin, effectivement, alors, c'est un homme de l'ordre. Hein, la notion d'ordre hyper importante chez lui, à tous les niveaux. Et il est, je pense, quelque part terrifié par le côté, effectivement, tout à fait libertaire de l'espagnol. Ça, c'est un élément important.
Mais en même temps, je pense que Calvin, il n'est pas en débat avec... Il y a des choses, les superstitions papistes, il n'est pas en débat avec eux parce que quelque part, c'est loin de lui, il s'en fiche un peu. Tandis qu'il y a quelque chose comme, comme un débat intérieur avec une part anabaptiste qu'il a connue lui-même, c'est-à-dire qu'il, dans lesquels, par lesquels il est passé, par, on va dire, de la même manière qu'il y a eu un débat intérieur avec ce qu'il appelle le nicomédisme, c'est-à-dire le fait qu'on a les idées de Luther, mais quelque part, de l'extérieur, on reste un bon catholique moyen. Il y a plus de débat intérieur chez Calvin que l'image un petit peu d'homme d'ordre sans discussion. Je ne crois pas que ce soit comme ça.
Oui, mais de toute façon, ça, c'est une chose qui ne se limite pas à Calvin. Zwingli a noyé tous les anabaptistes de Zurich dans le lac. Eukolampa d'Abal a impitoyablement fait exterminer tous les anabaptistes de la campagne baloise. Luther, évidemment, et les anabaptistes de Münster, etc. Donc, les anabaptistes sont craints comme des gens qui ont un potentiel libertaire. Et évidemment, il ne faut à aucun prix aussi que la réforme apparaisse pour ce qu'on lui reproche d'être.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire comme quelque chose qui favorise, sape les fondements
qui
même
favorise
de la chrétienté.
L'anarchie. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça le grand reproche qu'on leur fait.
Alors, comment faire cohabiter le Calvin homme médiéval de Vincent Schmitt avec...
Pas uniquement, mais en partie,
avec le précurseur de tout ce qui a été philosophie de Hobbes, de Milton, de Locke, que vous défendez.
Oui, bien sûr. C'est l'histoire. Donc, une figure historique, elle est quand même quelque part dans son temps. Elle est, Calvin vient après Luther, il vient avant Descartes, il vient après Saint-Bernard, il vient avant Kant. Bien sûr, il y a un moment. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le Moyen-Âge n'est pas, c'est pas une période obscure, c'est une période où il y a des choses magnifiques. C'est-à-dire ce qui se prépare, même Thomas d'Aquin, Saint-Bernard, etc., c'est des choses tout à fait extraordinaires sur lesquelles on a peut-être, du côté protestant, trop une conception, je dirais, une sorte de rupture, comme s'il fallait tout casser pour recommencer à zéro. Non, au contraire, les changements s'appuient sur des changements qui se préparent depuis longtemps. Donc ça, c'est un point, je dirais, très important. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'on peut aussi valoriser chez Calvin la dimension de rupture. Alors peut-être qu'il y a des ruptures qui ne sont pas, même sur la question de la liberté et de la liberté de conscience, je pense tout à fait que c'est un thème anachronique. Et je pense que même, je disais, on se crée un débat, que même chez Bayle encore, quelque part, il a une conception très archaïque de la conscience, Bayle. Pas du tout. C'est chez les jésuites que peu à peu se développe un thème de la conscience dans lequel la conscience a une épaisseur psychologique. Chez Bayle, la conscience, c'est une catégorie très, 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 très élémentaire, très vide, très plate.
On va voir chez Spinoza quand même. Hein.
Ah oui, mais je parle de Bayle.
Oui, mais c'est juste après.
C'est ça qui m'intéresse. C'est le côté, c'est parfois par des archaïsmes que s'introduit des choses beaucoup plus nouvelles. Et là, chez Bayle, c'est un exemple. Donc, c'est pas uniquement, il n'y a pas une sorte de progrès comme ça linéaire dans lequel il y aurait des gens qui seraient progressistes. Il y a des gens progressistes dont la postérité est stérile. Il y a des gens qui sont apparemment pas du tout progressistes, mais qui ont quand même eu. C'est quand même le paradoxe observé par Stefan Zweig. Comment se fait-il, dit-il dans son livre, que les pays calvinistes aient été les pays les plus libres, les Pays-Bas, les pays qui ont attiré justement toutes ces consensus.
C'est parce qu'il s'est trompé dans son analyse, en fait.
Mais c'est ce que je pense.
Je le dis d'ailleurs dans mon livre.
C'est ce que je pense. Je
suis tout à fait. J'entends. Mais Stephen Zweig, bon, il faut lui aussi le replacer dans son contexte.
Bien sûr, tout à fait. Ça.
Comme je disais, il se sert de ça comme d'une parabole pour dénoncer la montée du nazisme, ce qui me paraît tout à fait déplacé. L'association Calvin-Hitler est absurde. Elle n'a pas de sens. Mais évidemment, ça a fait mouche parce que Zweig est très connu. C'est vrai. Mais pour en revenir à ce que nous disions avant, oui, je trouve que Calvin, c'est un personnage qui a des tas de facettes. C'est ça le problème. C'est un personnage très compliqué.
Il est immense. Il est énorme.
Parfaitement contradictoire. Et il y a des facettes qui sont enthousiasmantes, puis il y en a d'autres qui le sont pour nous un peu moins.
Voilà. C'est ça.
C'est comme ça.
Et ce qu'il faudrait, ce serait quand même mesurer justement l'énormité du paquet, c'est-à-dire de l'énigme Calvin, et je dirais son importance dans l'histoire des idées, dans l'histoire tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, c'est sous-estimé. Cette importance est sous-estimée, y compris dans toutes ces controverses.
Bien, merci messieurs d'avoir réfléchi autour de la personnalité du grand réformateur Jean Calvin et de son compagnonnage avec un certain Castiglion et toutes les difficultés rencontrées autour de l'affaire Michel Servet. Merci à tous les deux.